10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue et c'est parti pour cette toute nouvelle semaine. Et bien au sommaire de cette émission, vous le savez, on va démarrer avec cette interview exclusive que nous a accordé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Tout de suite, c'est maintenant et on se retrouve tout de suite après avec les débatteurs influenceurs pour commenter, analyser, décrypter cette interview. C'est parti, interview exclusive pour Beurre FM avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin où on aborde les trois sujets, la thématique à la fois la première, celle qu'on retourne sur la loi de l'immigration. Ensuite, on reviendra, vous savez, sur le rapport police-jeunes et la population, l'insécurité. Et puis, on parlera aussi, bien sûr, de l'islamophobie, mais pas que, hein, le racisme ambiant dans notre pays et la suite. C'est parti, c'est maintenant interview exclusive pour Beurre FM avec le ministre de l'Intérieur.
Les informés. Les informés. L'interview. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous, monsieur le ministre Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, bonjour tout d'abord pour cet entretien exclusif sur Beurre FM. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci à vous et très heureux de parler avec vous et avec tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent.
Alors, monsieur le ministre, première question d'abord. Comment vous voyez le climat politique actuel en ce moment dans notre pays ? Ça sent pas bon, disons-le clairement.
C'est un climat extrêmement difficile. Difficile parce que nous avons une majorité relative à l'Assemblée nationale et une opposition du Sénat, donc difficile pour le gouvernement. Difficile parce que lorsque l'on gouverne depuis un certain temps, 7 ans, ben voilà, il y a évidemment parfois un peu d'usure. Difficile parce que la crise économique est là, la croissance s'effondre et il y a moins de recettes, donc il y a moins d'argent à dépenser, et donc c'est plus difficile pour un gouvernement. Difficile en matière géopolitique, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, c'est évidemment des choses très difficiles qui nous touchent directement et qui touchent notre morale. Et puis difficile parce qu'on voit une montée inexorable, on a l'impression d'une montée inexorable du Rassemblement national. Donc la politique, c'est en revanche aussi toujours des opportunités et toujours du courage et lutter contre les vagues qui semblent venir. Et donc il y a les Jeux Olympiques qui vont être une réjouissance pour chacune et pour chacun d'entre nous. Nous souvenir que le prix de la liberté, c'est important. C'est le 80e anniversaire du débarquement de Normandie et de Provence pour la Seconde Guerre mondiale. Et puis surtout, politiquement, un combat n'est jamais perdu d'avance. Il faut montrer du courage. Il faut que le partage et le sens des responsabilités, l'amour qu'on a pour notre pays, l'emporte sur l'égoïsme que représente Mme Le Pen.
Même, tout de même, on peut reconnaître, Monsieur le ministre, que les extrêmes, notamment l'extrême droite, s'emparent du pouvoir de plus en plus. Beaucoup considèrent que, ça y est, elle est aux portes de l'Élysée, elle est aux portes du pouvoir. Et certains même la voient déjà, en 2027, présidente de la République, Marine Le Pen.
Oui, c'est l'esprit de défaite qui veut ça. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en politique, si vous n'avez plus d'idées, si vous ne mettez pas vous-même des idées dans le débat public, les autres le prennent. Vous savez, en droit, on dit qu'il y a les immeubles et les meubles. Les immeubles, c'est un titre de propriété qui vous donne notre maison. Et les meubles, les professeurs de droit disent « ce téléphone m'appartient puisque je le prends dans les mains ». Mais c'est pareil pour la politique. Un thème public, une idée appartient au parti qui le dit puisqu'il l'a pris dans les mains et qu'il l'a dit. Et nous avons trop laissé le champ des idées à d'autres, notamment aux extrêmes, à la gauche comme à l'extrême droite, bien évidemment. Et moi, je suis là pour faire de la politique, pas simplement pour gérer mon ministère. Je suis très heureux, très honoré d'être ministre de l'Intérieur. Mais j'ai des idées à faire partager. Et je pense qu'en remettant des idées dans le débat public, on recréera, me semble-t-il, de l'intérêt pour nos concitoyens. Ils verront en nous un espoir. Et pas simplement Mme Le Pen ou M. Mélenchon qui dit « nous, on pourra », alors que nous, toute la journée, on a l'impression parfois d'être un peu gestionnaire.
Alors justement, parlons des sujets. On va aborder ce premier sujet, cette première thématique, M. le ministre, c'est la loi immigration. Revenons sur cette loi immigration. Avec le recul, M. le ministre, franchement, je vous pose la question clairement. Est-ce qu'elle était nécessaire, cette loi immigration? Surtout que dans les quartiers populaires, vous savez, la population ne l'entend pas de cette manière-là, ni de cette oreille. Certains, d'ailleurs, ça les fait replonger dans leur propre histoire. Ça leur envoie, c'est l'effet miroir, c'est leur propre histoire. Ils l'ont très, très mal vécu. Vous leur répondez quoi avec le recul aujourd'hui ?
Non, moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que les quartiers populaires ne demandaient pas la loi immigration. Au contraire, vous savez, c'est en refusant de parler des vrais sujets, la sécurité, l'immigration, que les gens qui étaient de gauche, populaires, votent à l'extrême droite. Tous les bastions communistes et socialistes passent à l'extrême droite. Pourquoi ? Pas parce que la gauche n'a pas osé rappeler l'importance des règles. Et vous savez, les gens qui sont issus d'immigration, ils aiment les règles. Parce qu'ils sont tout à fait conscients que le pays qui les accueille, ils sont venus dans ce pays parce qu'ils aiment cette liberté et qu'ils ne veulent pas reconnaître ce qui a parfois fait fuir du pays d'origine. Moi, je suis issu d'immigration par deux fois. Un grand-père maghrébin et un autre grand-père qui venait de Malte, sans doute d'ailleurs de Tunisie. L'histoire est complexe pour le travail, pour mon grand-père paternel et pour servir la France dans la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père maternel. Et moi, j'ai eu des éducations par mes parents, qui étaient des métèques, issus de cette immigration, extrêmement claires. La famille, la règle, le respect du professeur, le respect du père, le respect de la mère, le respect des femmes, le respect de l'autorité. Et je pense que les quartiers populaires, ils ont justement besoin de l'autorité de l'État. Et quand on est issu d'immigration, qu'on donne des efforts et qu'on se bat parce qu'on n'est pas enfant de bourgeois, on est là parce que parfois on a un prénom, parce que parfois on a une adresse, parfois on a une famille, parfois on a un manque aussi d'éducation parce qu'on n'a pas les bonnes écoles et les bons réseaux, c'est l'État qui nous garantit notre égalité des chances. Et quand il y a racisme, quand il y a xénophobie, parce que quelques personnes issues d'immigration, quelques personnes minorités ne respectent pas les règles, c'est normal qu'il faille taper du poing sur la table. Moi, je savais, j'ai vu des Chibani dans ma circonscription, dans ma ville de Tourcoing, des gens qui avaient servi l'armée française, qui ont choisi de rester algériens, faire la queue à 80 ans à la préfecture du Nord pour avoir un titre de séjour. Ou le renouveler, que ça fait 45 ans qu'ils étaient là, que leur famille, leurs enfants étaient médecins, avocats. Et par contre, j'ai vu des personnes issues d'immigration voler, commettre des crimes, trafiquer stupéfiants, taper leurs femmes, et eux, on ne les embêtait pas administrativement. Bah, la règle sur la loi immigration, c'est quoi? Vous aimez notre pays, vous avez envie de vous intégrer, vous êtes bienvenue, la France est un pays.
Alors, est-ce que votre sentiment, c'est qu'elle a été mal perçue peut-être par la population des quartiers populaires?
Non, mais je crois pas. Je partage pas votre opinion, vous savez. Tout le monde.
Je pose la question parce que c'est le retour qu'on a des auditeurs, régulièrement d'ailleurs.
J'entends bien, mais moi je suis élu à Tourcoing. Tourcoing, c'est pas Neuilly-sur-Seine, c'est pas le centre de Paris. Hein. J'ai pas des électeurs bourgeois. J'ai, comme chacun sait, d'ailleurs, de grosses communautés d'origine étrangère ou étrangère, des Espagnols, des Portugais, des Marocains, des Algériens, qui votent très largement. Moi, je suis réélu et élu dans ma commune, dans mon canton, dans ma circonscription, alors que tout le monde sait mes idées. J'ai des idées de protection de la famille, de droiture et de respect des policiers et des gendarmes. Et pour autant, ils me réélisent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont compris ce que je souhaitais faire. Mmh. Ce que je souhaitais faire, c'est rappeler la règle. Et vous savez ce qui me plaît ? Je viens de voir les agents de préfecture. Il y a plein de gens issus d'immigration là, dans les services des préfectures qui justement font la régulation pour les personnes étrangères. Des policiers, des gendarmes, des militaires, il y en a plein issus d'immigration. Et c'est des gens qui aiment la règle. Donc les quartiers populaires, ils peuvent se sentir stigmatisés, c'est tout à fait vrai. Lorsque, vous savez, de son beau bureau parisien, on dit « Oh, il faut être fraternel, mais on ne va jamais à Villeurbanne, on ne va jamais à Villetaneuse, on ne va jamais à Roubaix, on ne va jamais à Tourcoing ». Parce que moi, je suis issu de ces quartiers, je suis issu de cette immigration, et je sais qu'il y a une grande partie de gens qui réclament la règle et qui nous disent « Mais pourquoi, monsieur le maire, pourquoi, monsieur le ministre, vous laissez faire ça ?» Ils nous insultent. Et vous pensez que les gens issus d'immigration, ils n'ont pas des jeunes filles de 17 ans qui prennent le métro ? Eux, les gens issus d'immigration, ils n'ont pas la possibilité parfois de payer un Uber ou une voiture ou un taxi pour que la demoiselle rentre chez elle. Non, ils ont besoin que la sécurité soit là.
Avec le recul, elle était nécessaire, cette
loi d'immigration. Bien sûr,
est-ce que ce n'était pas en quelque sorte aussi pour doubler le Rassemblement national ?
Mais moi, je ne me pose pas.
Occuper l'espace.
Non, mais
monsieur le ministre, je vous pose simplement la question.
Le Rassemblement national, il part du principe qu'il juge les étrangers pour ce qu'ils sont. On voit bien les expressions de Mme Le Pen, alors la fille, la tante ou la nièce, on ne sait plus très bien, la PME. Il juge les étrangers pour ce qu'ils sont. Des musulmans, des prénoms, hein, M. Zemmour, obsession des prénoms de M. Zemmour, des couleurs de peau. La République, elle juge les étrangers, et les hommes en général et les femmes en général, pour ce qu'ils font. C'est leur comportement que l'on sanctionne. Ce n'est pas le fait qu'ils s'appellent Mohamed ou Jean-Pierre. Ce n'est pas le fait qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou agnostiques. Moi, je m'en contrefiche de ça. C'est, par contre, s'ils commettent un crime, il faut les arrêter et les condamner. Puis s'ils sont étrangers, il faut les expulser. Mais en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, comment ça se passe si vous commettez un crime et que vous êtes étranger ? Vous êtes expulsé. Et c'est tout à fait normal. Donc, il y a des gens qui me disent, vous savez, vous acceptez en France ce que vous n'acceptez pas dans nos pays d'origine. Vous l'entendez, ça aussi.
Oui.
Donc, la grande différence avec le Rassemblement national, c'est que nous, on n'est pas essentialiste. On est universel. Je me fiche de savoir votre religion, votre couleur de peau, votre prénom. S'il y a des discriminations sur ça, c'est scandaleux. Et c'est une honte pour la République. Et il y en a, et c'est une honte pour la République. Le RN, Mme Le Pen, elle a une image, celle de l'extrême droite, d'un peuple qui pourrait être débarrassé des étrangers, qu'elle appelle le grand remplacement. Mais moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de l'altérité, je n'ai pas peur de l'autre.
Monsieur le ministre, comme le temps est précieux et qu'on a évidemment dans cet entretien exclusif très peu de temps, on va essayer de passer en revue toutes les questions qui nous intéressent. On va parler de ce seconde thématique, la sécurité et le rapport, vous savez, qui est assez consommé, ce divorce qui est assez consommé entre le rapport police-jeune. C'est l'énième déplacement à Marseille. Vous, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, les dealers d'ailleurs, tout de suite, aussitôt après votre départ, ont retrouvé la Castellane.
C'est tout à fait faux, hein.
C'est ce que je vois un peu partout.
Non, mais vous n'y étiez pas. Je peux vous
assurer. Non, je n'y étais pas. Mais
c'est tout à fait faux.
C'est ce qu'on m'a rapporté. Alors,
on aime bien le journal des mauvaises nouvelles.
De toute façon, c'est pas la question. La question, monsieur le ministre, finalement, je vous la pose clairement. Faut-il imaginer la dépénalisation et la légalisation du cannabis. Cela permettrait certainement, peut-être, hein, je vous le dis, hein, de diminuer à la fois la part du marché illégal et de, donc, en effet, par ricochet, de réduire la criminalité.
Alors, je ne partage pas du tout cette opinion. Pourquoi ? D'abord parce que le cannabis, c'est une drogue. Et la drogue, c'est extrêmement mauvais. Bon, donc, si on légalise des choses qui sont mauvaises, on peut aller assez loin comme ça. Il ne me semble pas que ce soit une prescription qui soit tout à fait intelligente. Dans la mesure où on essaye d'interdire le tabac, et donc on autoriserait une drogue, ça me paraît un mauvais signe. Deuxièmement, c'est le signe de la défaite politique, parce que vous n'y arrivez pas, parce que c'est difficile, vous légalisez. Dans ces cas-là, dans votre vie, ça va aller assez vite, pas d'effort. Il suffit simplement de dire, bah, c'est difficile, on ne le fait pas. Troisièmement, est-ce que vous pensez que les trafiquants, qui gagnent 70 000, 80 000 euros par jour en argent liquide, ils vont se dire, tiens, c'est légalisé, je vais offrir un petit échoppe, je vais déclarer mes impôts, je vais payer mes URSSAF, je vais me syndicaliser.
Alors, c'est quoi la solution, monsieur le ministre ?
La solution de la drogue, c'est de la
merde. On a tout essayé.
Non, ce n'est pas vrai. D'abord, vous savez, quand vous êtes maire, vous apprenez que quand la rue est sale, il faut la nettoyer tous les jours. Si vous habitez la ville de Tourcoing et que vous me croisez dans la rue, vous me direz, monsieur le maire, la rue est sale, je vous dis, oh, vous savez, elle sera sale demain. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et je vous nettoie pas la rue parce qu'elle sera sale, vous me direz, c'est un drôle de maire, je paye des impôts quand même. À vos enfants, vous leur dites, refais pas ton lit ? Ah bah, c'est sûr qu'il est tous les jours défait le lit, mais il faut le refaire tous les jours. C'est ça le travail quand on fait de la politique. C'est tous les jours, alors, tous les jours, comme la maire sans cesse recommencer, lutter contre la drogue.
Alors c'est quoi ?
Moi je pense aux femmes seules qui sont dans des quartiers populaires, qui élèvent leurs gamins de 13-14 ans, parfois elles ont un peu de mal, parce qu'il y a
vous
des...
Vous avez raison, effectivement. Voilà.
Et qu'elle leur dit, arrête de fumer des joints, arrête de traîner, laisse pas traîner ton fils, comme disait le chanteur quand j'étais moi plus jeune. Et qu'est-ce qu'on leur dit à cette mère de famille, à la télévision ? Parce que les beaux esprits diraient, on légalise. Mais quelle autorité a cette maman ? Cette maman, elle a envie que ses enfants fassent des études, travaillent, pas fument des joints. Donc il faut qu'on ait un discours de réalité, de courage. Oui, c'est difficile, et moi je me bats tous les jours.
Vous battez tous les jours, justement, la délinquance est de plus en plus intense. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Dans les quartiers prioritaires, il y a de plus
c'est
en
partout,
plus...
C'est vrai, partout dans l'Occident, hein, c'est tout à fait vrai.
Il y a ce sentiment d'insécurité qui est beaucoup plus marqué, monsieur le ministre.
C'est
franchement,
vrai.
Est-ce qu'il y a une recette qui fonctionne aujourd'hui ? Parce qu'on a tout essayé depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans.
Non, mais on a un problème...
Vous, ministre de l'Intérieur.
On a un problème général dans le monde, et en Europe en particulier.
Et je parle des quartiers prioritaires.
Oui, mais je dis, c'est pas qu'un problème... des quartiers français. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai dans toute l'Europe, d'un rajeunissement de la violence. Voilà. Vous savez, la moitié des personnes que nous suivons pour la délinquance, ils ont moins de 20 ans. Les émeutes urbaines, vous avez vu ce que c'était des gamins de 14, 15, 16 ans. Donc dans ce cas-là, si vous posez la question du ministre de l'Intérieur, il va vous répondre pas que le ministre de l'Intérieur, c'est pas que les policiers qu'il faut envoyer. D'abord, il faut se demander pourquoi c'est comme ça. D'abord, il y a l'absence du père. Faut se dire aussi, les pères sont moins présents, la figure paternelle, on n'ose pas le dire. Le rappel des règles, le père, de plus en plus de femmes seules élèvent leurs enfants. Dans un quartier qui s'appelle la Bourgogne à Tourcoing, qui est un quartier socialement touché, évidemment, 90% de logements sociaux, donc on était fous. On a mis dans un endroit qui fait 9000 habitants, 90% de gens qui pouvaient avoir des problèmes sociaux. Donc ça, c'est pas équilibré. Donc d'ailleurs, j'ai fait une grande réforme pour baisser de 50% le nombre de logements sociaux pour les répartir dans la ville, pour qu'il y ait une mixité sociale. Parce que sinon, c'est des écoles plus en difficulté. 60% de familles monoparentales, des femmes seules qui ont des enfants. Où sont les pères ? Donc d'abord, c'est le travail des parents, et notamment des pères. Il faut rappeler à chacun que le père a un rôle important. Deuxièmement, il y a un travail d'école. L'école a perdu de l'autorité, c'est évident. Quand les parents ont perdu de l'autorité, quand l'école a perdu de l'autorité, quand l'éducation populaire, moi j'ai sauvé des MJC, j'ai sauvé des centres sociaux dans ma commune, mais qu'ils ont fermé par manque de subventions, par manque d'aide, par manque d'éducateurs populaires, arrive à tout ça avec en plus, peut-être... et sans doute souvent de la discrimination. Il ne faut pas s'étonner qu'à 14-15 ans, un gamin cherche une envie ailleurs, surtout quand il voit sur Instagram et sur TikTok la vie rêvée de ceux qui sont ailleurs avec beaucoup d'argent. Donc la police, elle règle des problèmes que les parents, que les profs, que l'éducation populaire aurait dû régler depuis longtemps.
Il nous reste quelques minutes, et j'aimerais quand même que sur cette dernière thématique, d'une phrase, monsieur le ministre, pour clore le chapitre police, rapport, sécurité...
Après, il y a aussi beaucoup de jeunes dans la police, et beaucoup de jeunes issus d'immigration.
Absolument. Comment il y a ce divorce consommé ?
Non,
comment
je crois
combler,
pas.
Comment combler ce
pas.
Fossé ?
Non, mais je ne crois pas. Je pense que la jeunesse, comme toute jeunesse, j'ai été jeune, vous avez été jeune, elle est au bord des règles. Et parfois, elle commet des actes de délinquance. En soi, ce n'est pas grave. Il faut les sanctionner au moment où quelqu'un fait une erreur. Mais on devient rarement tueur de grands chemins immédiatement. On a commencé par des petits larcins, et puis ensuite on va vers des grands chemins. Donc notre sujet à nous, c'est comment on donne des sanctions, et pas forcément la prison, et que ces sanctions permettent aux gens de revenir dans le droit chemin. Il y a plein de gens qui commettent des actes de délinquance, et qui reviennent dans le droit chemin, et qui sont aujourd'hui de grands citoyens.
Dernier sujet, c'est celui de l'islamophobie, parce qu'il y a deux petites dernières questions que je voudrais vous poser, et évidemment, beaucoup d'auditeurs seront interpellés par cette thématique qu'est l'islamophobie. Régulièrement, vous savez, les musulmans parlent de deux poids, deux mesures. Monsieur le ministre, on a dû vous le faire remonter régulièrement, hein, sur le traitement en comparaison avec la communauté juive ou chrétienne. Quand on pense à l'islamophobie, il y a une montée alarmante de l'islamophobie. Comment lutter, monsieur le ministre, contre ce sentiment de traitement d'inégalité? Je vous le dis parce qu'il est partagé chez les Français de confession musulmane.
Il n'existe pas pour la République. Vous savez, la République française, elle a la laïcité. La laïcité, elle est mal comprise. Ce n'est pas une nouvelle religion, la laïcité. C'est permettre à toutes les autres religions de vivre en France. En France, il y a 2600 mosquées. Dites-moi un autre pays d'Europe où il y a 2600 mosquées. Dites-moi un pays musulman où il y a 2600...
La France est en tête en Europe.
Donnez-moi un pays musulman où il y a 2600 églises. Bon, donc la France, elle l'accueille. Et elle n'a pas de religion. Et moi, je suis très attentif, petit-fils de musulman que je suis, très attentif à cette égalité. Alors ensuite, il y a une difficulté particulière qui fait que les musulmans en France sont plus croyants, plus pratiquants que les autres religions. Et qu'il y a une sorte de force dans l'islam, incontestable, notamment qui touche la jeunesse. Et comme il n'y a pas forcément des structures, des imams qui ont un statut, une organisation, ça existe ici ou là, mais pas partout, ils vont souvent sur Internet, où les contenus, eux, sont des contenus qui ne correspondent pas au véritable islam. Donc on doit aider, on ne doit pas faire à la place, mais aider l'islam de France à se structurer. Pas dépendre des États étrangers, c'est pour ça qu'on a mis fin aux imams détachés, pas dépendre d'idéologies qui sont mortifères et qui tuent et qui n'est pas le véritable islam, j'en suis absolument convaincu, mais on doit aider à vivre une religion qui est une grande religion de paix et de générosité. Alors moi, j'aime pas trop le terme islamophobie. Il n'y a pas de juifophobie ou de chrétienophobie. Bon, il y a de l'antisémitisme. Il y a des actes anti-musulmans. Aujourd'hui, ils ont augmenté de 30%. C'est dramatique. Il y a des gens dans des salles de prière. Ben d'abord, il faut le dénoncer et il faut le dire. Les actes musulmans ont augmenté en France. C'est pour ça que vous avez vu que tous les policiers et gendarmes ont protégé pour la première fois toutes les mosquées.
C'est ce que c'était ma dernière question, justement.
Ouais, effectivement. Il faut porter plainte. Et il faut surtout que nous, la police, la gendarmerie, on arrête les personnes qui font ça. C'est ce qui a été fait notamment à Morlaix, où il y a eu une attaque d'une mosquée pendant un lieu de prière. Et donc moi je veux dire aux musulmans de France que je suis là pour les protéger, et le fait d'être musulman, je suis sûr que ça donne la possibilité d'être un meilleur citoyen encore, parce qu'ils respectent les règles, et je sais qu'ils sont profondément attachés à respecter les règles de la République.
Dernière question, monsieur le ministre, vous avez fait référence justement aux lieux de culte. Vous savez, beaucoup de principales mosquées réclament une meilleure protection des lieux de culte. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'on a régulièrement des rassemblements d'ultra-droite, des tags, des dérives extrêmes, etc. Tous les responsables sont taqués et parlent d'une extrême préoccupation. Quelles mesures pour justement lutter et pour une meilleure peut-être protection des lieux de culte? Ce sera ma dernière question.
Ils ont raison. Bah, la présence de policiers et de gendarmes devant les lieux de culte, comme on le fait parfois pour les autres cultes, ça a été le cas pendant le Ramadan. Le fait qu'on est là pour subventionner aussi les achats, par exemple, de caméras de vidéoprotection, de moyens de sécurité, c'est pas parce qu'il y a une loi de séparation des églises et de l'État qu'on ne peut pas les financer. Aujourd'hui, nous mettons 500 000 euros par an, j'ai annoncé le doublement, 1 million d'euros par an pour aider les mosquées à s'équiper. On a créé, enfin c'est le culte musulman lui-même et on l'a aidé à le faire, de créer une association de protection des lieux de culte, avec des conventions avec les préfets, avec les policiers et les gendarmes, parfois des ports d'armes, et puis un bureau spécifique pour quand ils vont sonner chez les policiers et chez les gendarmes, ils puissent prier prioritairement, parce que s'en prendre aux religions, s'en prendre au culte musulman, c'est s'en prendre à la République.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs? Comment vous voyez votre avenir?
Ah, moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si les gens m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, ben, ils voteront pour quelqu'un d'autre. C'est pas ça en soi, c'est pas dramatique. Mais aujourd'hui, intéressez-vous à la vie politique de votre pays. En tant que simple citoyen, vous savez, la politique, si vous vous occupez pas d'elle, c'est elle qui s'occupe de vous.
Merci infiniment.
10h, 11h, Les Informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés, vous le savez, on va commenter, décrypter, analyser. Franchement, autant vous le dire, hein, 0153 48 3000, chers amis auditeurs et auditrices, avant d'accueillir nos débatteurs influenceurs. Franchement, pour moi, je considère qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il a fait évidemment deux lapsus. Le premier en tout début d'émission et en tout dernier, où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il reconnaît quand même. Je vais demander notamment l'avis de nos débatteurs influenceurs. C'est parti, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Si vous voulez la commenter, n'hésitez pas à venir en parler. Karim Alloum, bonjour.
Bonjour à Adil, bonjour aux éditeurs.
Journaliste, entrepreneur, l'élu de Villejuif, humaniste, pacifiste, artiste, c'est Guillaume Dessouy, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Alors, il est candidat ou il n'est pas candidat quand on l'écoute parler?
Vers le début et la fin, il est candidat. Même ceux qui ne veulent pas voter pour lui, quelque part, il commence à nous dire que... Et il sera certainement candidat, après est-ce qu'il sera candidat sur autre chose, et surtout il nous fait tout un programme, il nous dit quelque chose de central, il nous dit la phrase, si le Rassemblement National est puissant parce que c'est un esprit de défaite qui nous guide et qu'il faut des idées. Ah oui, il nous dit il faut des idées. Donc oui. C'est pas lui.
Il a endossé la bise.
Voilà, lui il est ministre. Son rôle c'est d'appliquer le programme du gouvernement. C'est pas les idées. Là il dit il faut des idées. Donc il est candidat en disant il a des idées en rappelant trois choses. Premièrement, elle a rappelé les valeurs républicaines. Qu'il n'y a pas de différence entre les citoyens français, il y a qu'un musulman avant tout, il n'est pas musulman, il est un citoyen de la France, d'un français, à savoir, il a rappelé la règle d'or de la République française, l'universalité, qu'on est jugé par rapport à ce qu'on fait, à ce que nous sommes devenus. C'est pas par rapport à notre couleur ou par rapport à nos origines.
Exact.
Et à la religion. Ça, c'est le premier point d'un programme très fort. Sur le plan régalien, il se réclame d'un républicain, un laïc, un universaliste. Le deuxième point, il fait aussi rappel que dans les quartiers populaires, il n'a pas prononcé le mot, je vais le prononcer à sa place, c'est la fracture territoriale. En fait, il dénonce la fracture territoriale dans son programme. Il dit que ça marche pas, les gens ils fonctionnent de cette manière. Donc effectivement, le plus grand problème de la société française, bien sûr, il y a l'extrême droite qui guette, elle est là, mais aussi la fracture territoriale. C'est-à-dire que il y a des territoires que la République a abandonnés et les enfants de la République sont abandonnés. Et quand on abandonne les enfants de la République, tous les voyous, tous les gangsters, tous les extrémistes remplissent le vide et non seulement la République les a abandonnés, ils ont décidé à leur tour d'abandonner la République. Et là, ils dénoncent ça. Le dernier point pour terminer rapidement,
il
revient sur un point important en dénonçant le Rassemblement National qui stigmatise des musulmans, qui monte des Français contre d'autres Français. Je pense qu'il fait une démonstration aussi de force en disant que il donne le chiffre même de mosquées qui est de 2600 mosquées en France. Et il a raison de dire dans quel pays musulman il y en a 2600 mosquées, églises. Et ça, c'est un point fort d'intégration aussi, d'assimilation des musulmans en France. Avant tout, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des citoyens de la République.
On va réécouter l'extrait de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je vous donne la parole, Guillaume Dessus. Écoutez.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs? Comment vous voyez votre avenir?
Ah, moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si les gens m'aiment, tant mieux. S'ils m'aiment pas, ben, ils voteront pour quelqu'un d'autre. C'est pas ça en soi, c'est pas dramatique. Mais aujourd'hui, intéressez-vous à la vie politique de votre pays. En tant que simple citoyen, vous savez, la politique, si vous ne vous occupez pas d'elle, c'est elle qui s'occupe de vous.
Merci infiniment pour cet entretien exclusif sur Voix
à la Terre. Merci à vous.
Merci infiniment.
Merci
et au plaisir.
Monsieur l'élu, clairement, c'est un lapsus. Il est candidat. Mais on l'entend là, non?
Absolument. Pour moi, il est candidat.
Il est candidat. Non. Il vient de faire un lapsus.
Absolument. Ouais.
Bon.
Il fait pas tellement un lapsus. Il fait un aveu. Je veux dire, la Macronie, c'est être candidat en permanence pour ne s'occuper d'aucun sujet et pour ne pas aller au fond des questions qui sont posées. Moi, ce qui m'a marqué dans l'interview du ministre de l'Intérieur, c'est que à chacune de vos questions, Adil, il répond je ne le crois pas. C'est-à-dire que la réalité, le retour que les Français lui apportent, il ne le croit pas. Et forcément, il met en face des paroles qui sont des interjections, des gens qui l'interpellent et qui vont dans son sens. Être politique, c'est pas voir un point de vue unique. Être politique, c'est avoir cette capacité à faire concorde. Il ne fait pas concorde. Il est toujours dans cette tactique de clivage. Il ose nous parler d'universalisme alors qu'il est dans une autorité. On ne peut plus vertical. Il nous rappelle l'autorité du père, l'autorité de la nation, et il ne voit pas les problèmes. Alors, moi, j'aimerais savoir comment on fait pour avoir de nouvelles idées quand on ne voit pas les problèmes nouveaux. Et j'aimerais savoir comment Monsieur Darmanin peut continuer de nous parler de l'usure du pouvoir, de sa carrière politique, alors qu'il est en échec patent depuis 7 ans, et que ce qu'il propose, ce ne sont que des aggravations dans tous les sens.
Si vous voulez bien, vous savez quoi, je vais consulter nos auditeurs, puisque citons ça là aussi. Je vais juste l'accueillir, c'est Khadija de Toulouse. Khadija, bonjour de Toulouse. Les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole. Khadija de Toulouse, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour madame.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du ministre de l'Intérieur ? Effectivement.
Alors, tout d'abord, je vous remercie. Et moi, je viens apporter un témoignage personnel.
Allez-y, bien sûr, je vous en prie.
Alors, tout d'abord, je trouve dommage qu'on puisse pas intervenir directement. Moi, j'aurais aimé lui poser une question directement.
Mais il viendra dans le studio, bien sûr. Il viendra dans le studio. Ça a été enregistré, hein. C'est une émission, une interview qui a été enregistrée, voilà, dans les conditions du direct.
Alors, je me suis, de par mes origines, moi, je suis franco-algérienne. Je pense qu'on est tous concernés. Moi, j'ai vécu une situation personnelle. Je vis une situation personnelle très complexe. Et pour pas emmêler un peu les sujets, je viens pas parler de ça. Mais je peux vous dire que moi, j'ai écrit à Monsieur Darmanin par rapport à cette situation. Et j'ai eu un retour de son cabinet. Et ma situation, on va dire qu'elle a évolué, qu'elle évolue lentement, mais sûrement. Et je peux vous dire que c'est par rapport à une situation personnelle, par rapport à mon fils.
Oui.
Et je me suis sentie concernée, c'est quand on parlait de la relation des jeunes avec l'État, avec la police, tout ça. C'est là où je voudrais où j'insiste. Moi, mon fils, il a subi une injustice et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a plus confiance en la justice. Et ce lien a été, je pense qu'il a été brisé. Et si on veut traiter une maladie, si vous voulez, il faut aller creuser aussi les causes de cette maladie.
Qu'est-ce que vous en pensez,
oui,
Karim Alou?
Oui, effectivement, et vous avez raison, madame, on le constate quotidiennement, il y a un peu une fracture entre les jeunes des quartiers et les pouvoirs publics en général. C'est pas uniquement avec le ministre de l'Intérieur. Effectivement, l'absence de l'État dans ces quartiers aussi a été remplacée par toutes les bandes de mafias, la drogue, la prostitution, le trafic d'armes, et bien entendu, dans ces quartiers, il faut dire aussi... Comme
vous
il
allez
a dit,
réagir, Guillaume, attendez, vous êtes là aussi pour réagir, Guillaume.
Et comme il a dit tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, que voilà, mais ce sont toutes ces personnes, ces femmes, ces gens fragiles, les ouvriers, les personnes âgées qui sont victimes de toute cette agitation d'insécurité qui existe. Il l'avait dit une fois, je l'ai noté, et tout le monde a besoin de l'autorité de l'État. Effectivement, quand vous vous promenez dans ces quartiers que je connais bien, les gens ont besoin aussi de l'autorité de l'État pour que tout le monde vit dans la tranquillité et dans la sécurité.
Mais c'est quoi l'autorité de l'État? Mais c'est quoi l'autorité de l'État? C'est ça qu'il faut interroger et que le ministre n'interroge pas. C'est quand même terrible ce que vous nous dites, madame. Et franchement, j'espère que les choses vont se réparer dans votre vie familiale et je souhaite le meilleur à votre enfant. Mais quand on en est à une république où il faut faire intervenir le cabinet du ministre de l'Intérieur pour voir évoluer la situation de son fils, il n'y a plus d'autorité de l'État, non pas parce que le ministre ne fait pas assez de rodomontade et ne fait pas assez de loi. Sur la loi immigration, on en est à la 30e. Non, le problème, c'est que dans les quartiers, il n'y a plus de présence. Dans les prisons, il n'y a plus de possibilité de réhabilitation. Dans les carrières de nos enfants, il n'y a plus de véritable perspective où leur intelligence est reconnue. Il y a des plafonds et des murs partout. Et Monsieur Darmanin ne fait qu'en rajouter des murs. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que ça. Et il vient nous expliquer que les murs sont une solution pour nos enfants. Mais il n'a rien compris à toutes les avancées de la psychologie humaine et de la façon dont aujourd'hui on sait que c'est en rentrant en dialogue positif les uns avec les autres qu'on va pouvoir faire une société de l'intelligence qui est exigée par nos moyens techniques. C'est pas des grands mots. C'est des réalités très claires. Dans les écoles, avec la police, avec les services publics, il y a besoin d'intelligence, de relations, donc il y a besoin d'humains, et lui n'en met pas depuis le début de son mandat.
Karim Alou.
C'est un constat, effectivement, mais on est dans un constat avec, si vous voulez, avec des idées généreuses, bien entendu. On se rend compte dans ces quartiers, par le passé, Il y avait des corps intermédiaires, il y avait des partis politiques, il y avait des syndicats qui ceinturaient tous ces quartiers, qui les accompagnaient. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans ces quartiers. Ils sont abandonnés. La République les a abandonnés et la société civile les a abandonnés. Les partis politiques les ont abandonnés. Les corps intermédiaires les ont abandonnés.
Non, mais disons pas dans ces quartiers. Disons que c'est une réalité du pays, une réalité qui est passée par une politique générale de la consommation et une politique générale d'enrichissement avec des baisses de services dans tous les sens qui nous ont été vendus comme étant de l'orthodoxie budgétaire. Cette orthodoxie budgétaire, elle étrangle tout le pays et tout son projet, et en particulier ceux qui ont le moins de moyens.
On avait parlé la semaine vendredi de ça. La France est championne du monde des dépenses publiques.
Mais non.
Laissez-le finir. Vous pouvez pas le nier. Tous les organismes, tous les mondiaux, ils ont reconnu que la France est championne du monde des dépenses publiques.
Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Il suffit de se mettre dans le bon référentiel pour que ça dise n'importe quoi.
Quand vous me coupez, je ne peux pas continuer mon idée.
Non, mais j'entends, quand même, il faut un peu de contradiction sur des sujets comme celui-là. Vous m'envoyez une interjection. La France est championne. Non, la
Pourquoi
France n'est pas
phrase,
championne.
Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-le
répondre.
Il n'y a pas de souci, vous allez me répondre. La France est championne du monde des dépenses publiques. C'est-à-dire que la France est incapable d'augmenter les dépenses des services publics. Puis on entend qu'ils veulent même tailler dans les services publics. Donc, si je voulais, en même temps, les gens nous disent les services publics sont à l'os. C'est un constat français. C'est l'échec du modèle français aussi. C'est ça le problème. Vous pouvez rajouter des misères.
C'est fort quand même l'échec de l'État français, non?
Non, du modèle.
Ah, du modèle.
Du modèle. C'est l'échec. C'est-à-dire qu'on dépense le plus et tout le monde trouve qu'il n'y a pas assez de services publics. Et tout le monde nous dit qu'on ne peut plus augmenter les dépenses et on doit même tailler dans les dépenses. C'est une contradiction qu'il faut régler. Je vous donne juste un exemple. Quand on distribue les allocations familiales, 40% de ces sommes ne sont pas attribuées aux locataires, aux allocataires. Ils sont dans la gestion. Il faut moderniser notre État. Les solutions, il faut les moderniser. Et ces quartiers, effectivement, il faut aussi les moderniser, mettre de la vie. Ce n'est pas avec, s'il y a absence de l'État, s'il n'y a pas de l'autorité de l'État, personne ne peut faire des investissements dans ces quartiers. Personne ne mettra des millions ou des milliards pour investir. Personne n'ira mettre son entreprise au siège social dans ces quartiers. Il faut de l'autorité. Et sans autorité, il n'y aura aucun investissement dans ce quartier.
On marque une courte pause et j'irai accueillir nos auditeurs au 01 53 48 3000. J'ai Fatima de Paris. Restez avec moi, Fatima. Je vous retrouve tout de suite après la pause et on continue de commenter cette interview qui nous a accordé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de façon exclusive, effectivement. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Guillaume Dessouy, qui est un élu de Villejuif, mais également le journaliste entrepreneur qui est avec nous sur le plateau Karim Maloum, avant de recevoir Fatima de Paris avec cette interview exclusive que nous a accordé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui continue de faire commenter Guillaume Dessouy avant d'accueillir Fatima.
Oui, moi je voudrais revenir sur ses propos sur l'essentialisme de la PME Le Pen, à laquelle il s'opposerait par son universalisme, et du besoin des gens d'avoir des règles. Bien sûr, chacun a besoin de se référer à la justice, chacun a besoin de se sentir en sûreté dans son pays. Ton auditrice Khadija le disait bien. Et pour autant, je ne crois pas, moi, pour reprendre la formule du ministre, qu'il ait raison. Les gens ont besoin de moyens. Les gens ont besoin de moyens et l'universalisme, c'est de répartir ces moyens équitablement sur le territoire, et ça à aucun moment il n'en parle.
Sur l'islamophobie, vous voulez dire quoi?
Et sur la question du cannabis, il le diabolise une fois de plus, mais il ne nous parle pas du problème d'alcoolisme, il ne nous parle pas du problème des médicaments, il ne nous parle pas du problème du mal-être. Il veut renforcer les contrôles, il a parlé dans d'autres médias du contrôle au test salivaire, qui va renforcer le problème du contrôle de au faciès et renforcer le sentiment d'injustice dans ce pays. Véritablement, monsieur le ministre de l'Intérieur est un ministre qui ne cesse d'aggraver les problèmes.
Sur l'islamophobie.
Ouais, rapidement.
Sur l'islamophobie.
Je vais répondre à ça. Mais vous savez, cher monsieur,
parce qu'il faut
sans sécurité. Sans sécurité.
J'ai parlé de sûreté.
Il y a ni liberté, ni démocratie, ni fraternité.
Sur l'islamophobie.
Sur l'islamophobie.
Sur l'islamophobie.
Je rejoins ce qui vient d'être dit. Au fait, l'islamophobie, c'est un mot qui a été qui est utilisé un peu partout. Qui, au lieu de, on va rester dans son couloir. Je pense l'islamophobie, c'est un mot qui ne veut pas dire grand chose. Il a été remplacé. Quand les musulmans sont victimes d'actes d'agression ou de violence ou d'insulte, ça s'appelle le racisme. C'est parce que dissimuler, enlever le racisme, appeler-le l'islamophobie, on sort de la loi. Parce que l'islamophobie, c'est pas un délit. Par contre, le racisme est un délit. Voilà.
Je alors, oui, mais sur l'islamophobie, il dit qu'il y a un problème d'attaque des mosquées. Pardon. Pardon, Adil. Mais l'appareil, il n'y a jamais eu de moyen. Il n'y a jamais de moyen derrière les mots de M. Darmanin.
Fatima de Paris. Bonjour, Fatima.
Allô ?
Oui, bonjour, Fatima.
Allô ? Bonjour Adil.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute avant de lancer le code 9.
Bonjour madame.
Bonjour messieurs. Surtout, je ne vais pas être interrompu, s'il vous plaît.
Allez-y, Adil, mais faut être court. Faut être court parce que.
Vous posez juste une petite question.
Bien sûr, je vous en prie.
Vous venez de Neuilly ou de la banlieue ?
Moi, je viens de banlieue, plutôt, de vous banlieue. Le savez.
Et là où vous êtes, c'est vos parents ou c'est l'État ?
On fait l'interview ?
Le poste que vous occupez. Donc, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai trouvé à la hauteur d'Hermanin.
Absolument.
Et en entendant vos invités, à croire que toute la banlieue, c'est des délinquants. C'est une minorité qu'il faut... Excusez-moi, monsieur. C'est une minorité qu'il faut vraiment punir. Parce que faire des enfants... C'est les parents qui doivent les éduquer. C'est pas.
Et vous aviez raison, madame.
Donc vous avez trouvé, monsieur le ministre de l'Intérieur, plutôt.
Oui, je l'ai trouvé à la hauteur.
Bon.
À la hauteur, c'est ça. C'est sûrement son côté algérien. Donc, je finis. Deux secondes. La délinquance, c'est les personnes qui font des enfants à la chaîne tout en n'ayant pas les moyens physiques.
Fatima, merci Fatima.
Merci.
Fatima, attendez, il faut que je lance le quoi de neuf. Je suis très très en retard.
Merci
beaucoup Fatima d'être intervenue. On a pas mal d'auditeurs, mais c'est tout de suite le quoi de neuf. C'est parti, le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, comme chaque lundi, c'est avec Michel Taube, qui est le patron d'Opinion Internationale, mais également éditorialiste. Bonjour Michel Taube, comment ça va?
Bonjour, mon cher Adil Farkan.
Bonjour.
Bonjour, les auditeurs de l'OFM.
Très, très bien. À vous la parole. On vous écoute, mon cher Michel Taube.
Alors, d'abord vous avez fait très fort, mon cher Adil.
Oui, merci beaucoup.
Vous savez, rappelez-vous, il y a longtemps, il y a un journaliste qui a posé une question à François Mitterrand. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? C'était en 1988.
Oui.
En fait, vous êtes celui qui avait arraché l'annonce de candidature à présidentielle de Gérald Darmanin.
C'est ça. Vous l'avez compris, hein. Vous avez, il le dit, hein, clairement. Hein, on l'entend. Hein.
Ah, il le dit clairement. Bah, écoutez, il va y avoir beaucoup de candidats issus de la Macronie, et j'ai beaucoup de respect pour Gérald Darmanin, mais je pense que s'il y a trop de candidats de la Macronie, aucun d'entre eux ne sera au deuxième tour de l'élection présidentielle, et on aura un duel. Marine Le Pen ou Jordan Bardella contre Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est vrai.
Voilà, en tous les cas, l'événement du jour, c'est votre interview, si je peux me permettre.
Ah, je vous en prie.
Alors, moi, je voulais...
On a deux minutes, si vous voulez.
Même pas. Je fais un petit focus sur ce qui s'est passé au Sénégal hier. Il y a eu l'élection présidentielle, le premier tour de l'élection présidentielle. Le Sénégal est un grand pays africain, une grande démocratie qui est évidemment francophone, qui est proche de la France. Beaucoup de franco-sénégalais doivent, j'imagine, nous écouter. Et effectivement, le Sénégal est en train de faire un choix historique, j'ai envie de dire, de changer de vision politique en élisant soit aujourd'hui même, soit dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, un nouveau président de la République. Et c'est vrai que ce qui se passe au Sénégal, c'est un peu l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique panafricaine, une Afrique qui a un problème très profond de relation à la France et à l'Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est ça, cela nous concerne en France, à Paris, pour nous, les auditeurs de Beurre FM, parce qu'encore une fois, c'est l'histoire qui est en train de se passer. Le Sénégal est en train de changer profondément. Et en élisant un nouveau président de la République, eh ben c'est un nouveau Sénégal qui est en train d'émerger, lequel va avoir des relations peut-être difficiles avec la France, mais qui doivent participer d'une réinvention de la relation et de l'amitié entre la France et l'Afrique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment regarder très près ce qui se passe au Sénégal. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre.
Je vous l'accorde, effectivement, moment historique qui est en train de se dérouler et il faut observer ça avec beaucoup d'attention. Merci Michel Taube d'être intervenu. À lundi prochain, sans faute.
À lundi prochain, merci, bonne journée.
Merci à vous, merci. Karim Maloum,
rapidement, effectivement, c'est un événement. On a un futur candidat. Je ne rejoins pas beaucoup Michel parce que je pense. Au niveau de la majorité présidentielle, ils s'arrangeront pour avoir un candidat, il peut avoir une primaire, il peut avoir quelque chose, c'est des gens, ils savent très bien le danger, il existe. Mais il vient d'annoncer un programme politique, Gérald Darmanin. Il dit que ça va se jouer sur des questions régaliennes. Il dit que ça va se jouer sur la sécurité, sur la violence, sur l'absence, sur la rupture, sur la fracture territoriale et bien entendu sur l'antisémitisme et sur le racisme. C'est ce qu'il a annoncé, je pense. Il a compris, c'est ce qui fait la force du Rassemblement National. Ce n'est pas distribuer des milliards et des milliards dans des quartiers qu'on va s'opposer au Rassemblement National. Il faut avoir un discours républicain, un discours régalien, un discours fort, effectivement, pour s'opposer et pour donner, faire un dessin à nos compatriotes pour croire qu'il y a un espoir et possible, il n'y a pas un esprit de défaite. Et pour terminer, parce que je n'aurai pas la parole, j'ai toute une pensée, et M. Darmanin n'en a pas parlé parce qu'elle a été enregistrée avant, aux victimes des attentats criminels terroristes islamistes qui se sont déroulés à Moscou, toute ma sympathie et toute ma solidarité avec les moscovites.
Évidemment, sur cette question de l'attentat de Moscou, toute la solidarité mérite d'être soulignée en ce lundi matin. Pour ce qui est de Monsieur Darmanin, s'il cherche à avoir des idées, il va falloir qu'il nous parle de la façon dont il les met en place. Et là, merci. On n'a rien eu dans cette interview.
Merci messieurs, merci à Karim Maloum, merci à Guillaume Dessouy, merci à Fodil à la réalisation, merci à vous tous. On se retrouve demain avec autant de plaisir. Et les programmes continuent sur BFM. Allez, je rends l'antenne parce qu'on est super à la voie. Ça y est, je rends l'antenne. Ça y est, c'est trop tard. C'est fini. Ça y est,
dire que...
Moi-même, je suis en retard. Ah non, vraiment, Karim, je suis très en retard. À demain avec autant de plaisir, on n'en lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.